vieux pas. Heureusement qu'enfant, on ne se drogue pas.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Vous êtes sur Radio Campus 106.6 FM et DAB+. Aujourd'hui, pour animer cette émission, nous sommes quatre. Il y a moi-même François. Je suis accompagné de Pierre-Yves.
Salut à tous.
De Reynald.
Bonsoir à tous.
Et de Dominique.
Salut à toutes.
Aujourd'hui, un sommaire, comme d'habitude, geek et ludique. Je vous propose tout de suite de commencer par une actualité ludique, puisqu'on est en train de suivre en direct la cérémonie des As d'Or. Alors, vu qu'on est diffusé le dimanche, elle a eu lieu jeudi soir à 19h30, et on va savoir enfin quels seront les grands élus de cette édition de 2021. Alors, je vous invite...
Ils vont toucher le jackpot.
Alors, même si les nominés qu'on a cités lors de ces précédentes émissions ont déjà boosté leur vente, et il y a des jeux qui viennent à peine de sortir cette semaine. Hein.
Et qui sont déjà en rupture de stock, sûrement.
Peut-être rappeler qu'il y a trois catégories, en fait. Hein. Il y a la catégorie enfant, donc plutôt pour une
pour
période d'âge. Oui, bah. Mais alors, de 6 à 10 ans, par contre, donc pas non plus de très jeunes enfants. Après, la catégorie famille, et après, la catégorie expert.
Et si on a des enfants experts, en fait, vraiment.
T'achètes tous les jeux.
C'est mal. Remarque, si tu as des enfants experts, tu vas te faire du fric. Problème.
Toujours dans l'univers ludique, le mois prochain, on aura également le festival Ludinor qui va proposer également un peu un concours. Alors, cette fois-ci, ça sera un concours virtuel qui est destiné notamment aux créateurs de jeux de société.
Oui, parce que ça fait plusieurs années que, enfin, depuis le début, je pense que Ludinor, comme dans beaucoup de salons, il y a des créateurs qui viennent présenter leurs jeux. On ne parle pas de jeux qui sont déjà sortis, déjà édités, déjà vendus. Des gens qui sont encore qu'à l'étape du proto, au mieux. Et donc, il y a toujours, la sélection est de plus en plus grande. Et à chaque fois, donc, depuis plusieurs années, ils remettent un prix Ludinor. Et là, c'est pareil, il y a trois catégories. La catégorie enfant, la catégorie famille et la catégorie stratégie. Et c'est les votes du public pendant le salon, les gens qui testent les jeux et qui mettent une petite croix s'ils ont aimé le jeu ou pas. Et c'est pendant le salon, on dirait, que le calcul se fait, que la remise des prix est faite le dimanche soir. Mais bon, là, sans visiteurs, il va y avoir un jury qui va décider.
Et en temps normal, Dominique, est-ce que du coup, les gens peuvent discuter avec l'auteur de jeu, lui faire des remarques, des propositions d'amélioration?
Ah oui, de toute façon, les auteurs viennent, avant même pour le prix, ils viennent présenter leur jeu et faire un maximum de parties, si possible, pour avoir des retours et pour pouvoir... Il y a même des auteurs qui améliorent le jeu pendant la nuit du samedi à dimanche. Ils refont des pions, ils réimpriment des papiers, etc. pour modifier le jeu pour le deuxième jour. Ça arrive régulièrement, ça. Et donc, cette année, il y a eu 162 candidatures en tout. Et donc, il y a 25 jeux qui ont été retenus, 5 dans la catégorie enfant, 10 dans la catégorie famille et 10 dans la catégorie stratégie. J'ai regardé un petit peu les noms. Alors, bien sûr, il y a énormément que je ne connais pas. J'ai vu un ou deux noms que je connaissais de gens qui avaient déjà présenté des protos, voire déjà été édités.
Et moi, je ferai un petit clin d'œil, justement, en parlant d'auteur, à Xavier Violo, donc dans la catégorie jeux enfants. Parce qu'en fait, Xavier fait partie de mon club de jeux sur Nantes. Donc, un petit clin d'œil à Xavier. Et toutes mes chances pour ce concours.
L'anniversaire du loup.
Effectivement. Donc, c'est pas le premier jeu de Xavier. Il en a déjà fait deux ou trois avant qui ont été édités. Écoutez, donc, il a démarré sa carrière il y a finalement quelques années en tant qu'auteur de jeu et ça se passe très bien pour lui. Donc, bravo. Tant mieux.
C'est amusant parce que je regarde les cinq jeux de la catégorie enfant. Alors, lui, c'est l'anniversaire de Lou. Il y a Fin de Lou. Il y a aussi Gare au requin et Le festin de Lola. Donc, c'est axé sur la bouffe. Je ne sais pas pourquoi.
Enfin, Gare au requin, t'es pas obligé de le manger, le requin.
Bon, mais c'est quelqu'un qui mange à la fin. Quelqu'un qui se fait manger à la fin.
Mais ça rappelle un peu Kraken Attack, hein, l'un des jeux enfants nominés pour les As d'Or.
C'est ça. Alors, est-ce qu'il va gagner? Alors, vous le savez peut-être déjà, hein, si vous êtes férus de l'actualité ludique. Nous, on va le découvrir en direct. Alors, autre petite actualité, ici, on est sur un Kickstarter qui s'appelle Architeutis.
Alors, comme c'est du latin, c'est Architeutis, peut-être.
Voilà, qui est proposé par Posidonia Édition et qui vous propose de mettre en place un magazine des poulpes rôlistes.
Un magazine sur le jeu de rôle, on avait compris. C'est un peu pour booster le monde de secteur du jeu de rôle qui vit une période difficile, comme ils disent, mais qui est aussi en plein boom hein, avec le confinement. Il y a beaucoup de gens qui s'y sont remis. Et donc là, ça sera un magazine qui sortira en PDF, bien sûr, mais aussi une vraie version papier pour ceux qui vont s'abonner. Alors, c'est pas sur Kickstarter, c'est sur GameOnTabletop.com, qui est un site aussi de financement participatif qui fait beaucoup de jeux vidéo, jeux de plateau, jeux de rôle, etc. Donc là, ça vient juste de se lancer, c'est jusqu'au, enfin, je retrouve la date, c'est jusqu'au 16 mars, donc on a un tout petit peu de temps. Donc ça s'appelle Architeutis, A-R-C-H-I-T-E-U-T-H-I-S, c'est très facile à prononcer, bien sûr. Et là, il y a des exemples de maquettes, ça a l'air assez sympa.
Et on peut dire qu'au niveau du design, ils se sont fait plaisir avec de magnifiques poulpes.
Ah oui.
Avec leurs plumes et leurs bouquins.
Bah, Cthulhu est passé en mode dans le domaine public, donc on a le droit de faire ce qu'on veut. Il y aura même un jeu de rôle complet dans chaque magazine. Et des scénarios, bien sûr, comme dans tous les magazines de jeux de rôle. Donc ceux qui ont participé, les souscripteurs, comme on dit, recevront la version numérique en premier, bien sûr, puis la version papier. Mais la version numérique sera disponible pour tout le monde plus tard, gratuitement même.
On le rappelle, parce que la plateforme n'est pas connue du tout, c'est Game On Tabletop. Alors quand je dis pas connu, c'est comparé aux géants tels que Kickstarter.
On dit toujours Kickstarter par défaut, même quand on parle de Ulule.
Et bah, en parlant d'Ulule, on a découvert un petit projet participatif qui s'appelle Donjons et Dragons et Philosophie.
J'ai mis ça, j'ai trouvé ça drôle comme titre.
Ce n'est pas antinomique, hein, attention. Oui.
Absolument pas.
Ah bon.
Et c'est très sérieux, hein. C'est un livre cette fois, oui, c'est carrément un livre qui va parler de la philosophie, du jeu de rôle principalement dans Donjons et Dragons, d'un point de vue philosophique. La moralité, la narration, tous ces thèmes, l'aventure.
J'aime bien la petite légende qui est « Gagner un avantage à tout hôtesse de sagesse ». Je trouve ça absolument bien fondard.
Donc cette fois-ci, c'est sur Ulule.
Par contre, juste, c'est un jeu de rôle du coup, ce truc ou c'est
Ah non, non, c'est un livre, c'est un vrai livre.
Ah oui, c'est un... D'accord.
Ça ne veut pas dire que les jeux de rôle ne sont pas des vrais livres, attention. Mais non, c'est vraiment une étude faite par... Il y a Christophe Robichaud qui est un maître de conférence en éthique et politique publique, s'il vous plaît, à Harvard, pas mal. Et William Irvine, qui est professeur de philosophie au King's College. Donc tu vois, c'est pas des rigolos. Enfin, ils sont peut-être rigolos dans la vraie vie, mais ils font pas ça pour s'amuser.
Je vous propose, parce qu'on a beaucoup de musique à passer pour cette émission de 18h à 19h, on a vu cette semaine un groupe mythique qui nous vient de France, qui se sépare. Alors vous l'avez vu un peu partout, hein, l'épilogue de Daft Punk.
On croyait que c'était la fin du monde. On avait oublié le Covid pendant 2-3 jours.
Mais juste après, ça va. Comme le PSG a perdu au foot, finalement, on a eu une information plus importante à partager, heureusement.
Alors, il y avait les rumeurs comme quoi ils étaient en train de préparer un nouvel album. Est-ce que c'est suite à des dissensions lors de la création qu'ils en sont venus à se séparer? En tout cas, la séparation a été actée en vidéo, donc à mon avis, elle a été préparée et peut-être qu'elle date de l'année dernière.
Hein, oui, j'ai entendu des gens qui... Alors, j'ai pas vu la vidéo moi-même, mais j'ai entendu des gens qui analysaient la vidéo, etc., pour voir s'il y avait des signes, des explications. Parce qu'apparemment, il y en a un qui se lève pour partir ou il y en a un qui explose, je sais pas quoi. Alors... Pour quelle raison? Est-ce qu'il y en a un qui est malade? Toutes les hypothèses sont là. Mais tu disais qu'ils étaient en train de préparer un album. Mais on dit toujours de ça des gens qui soit se séparent, soit viennent de mourir. Il n'y a pas longtemps, il y a Tonton David aussi qui est mort. Comme par hasard, il est en train de travailler sur un nouvel album. C'est toujours la phrase un peu bateau qui revient.
Oui, il était même question qu'il passe au Super Bowl, à la mi-temps du Super Bowl avec The Weeknd. Bon, vous voyez, comme quoi.
On va pas vous passer du Daft Punk que vous avez sûrement entendu et réentendu toute la semaine. Nous, on vous propose... un challenge back-to-back avec ces groupes qui se sont séparés, malheureusement ou pas. Pierre-Yves, est-ce que tu veux ouvrir le bal?
Allez, ben moi je commence avec un groupe alors qui s'est séparé il y a très très longtemps. Quand je dis très très longtemps, il a été créé dans les années 76-77, j'ai plus l'année précise. Et il a dû se séparer au milieu des années 80. Je vais parler du groupe The Police. Donc oui, ça doit bien faire 35 ans qu'ils se sont séparés, même s'ils ont eu l'occasion... quelquefois de refaire des concerts ensemble, mais bon.
Alors, deux fois, il y avait juste une session pour associative quelques années après leur séparation, et on a pu revoir, alors ça date déjà il y a une dizaine d'années, en 2008, c'était la reformation de The Police, où ils avaient tous pris un coup de vieux, mais avaient retravaillé chaque chanson pour cette tournée, qui avait extrêmement bien fonctionné. Alors peut-être pas Sting, hein, parce que Sting fait une tournée tous les ans, mais peut-être les autres. Mais en gros, si on regarde bien les documentaires associés à ça, c'est Sting qui a décidé de reformer le groupe et non pas les deux autres. Les deux autres ont attendu pendant des années et des années que Sting décide enfin de re-signer The Police. Alors, pour le coup, là, il s'en avait mis plein les poches.
Tu as acheté leur album, peut-être, François, à cette occasion, non ?
Ils ont pas fait d'album pour 2008. Ils ont juste fait une tournée. Je vous invite à regarder les lives, d'ailleurs, qui sont extrêmement sympathiques.
Écoutez, et du coup, alors l'actualité, c'est plutôt Mars que la Lune, mais bon, je me suis dit, allez, c'est un petit clin d'œil, du coup, en retenant la chanson « Walking on the Moon ».
Walk.
Voilà, c'était The Police avec Walking on the Moon. Alors, gros événement de cette semaine, c'est bien sûr, pour tous ces gamers qui nous écoutent, la BlizzCon Line. Puisqu'elle a changé de nom, on n'est plus à BlizzCon, c'est la BlizzCon Line 2021. Avec des surprises. Je pense qu'on a tous assisté à cet événement, bouche bée, les yeux ébahis par tant de bonnes nouvelles, tant d'originalité.
Tant de créativité, je m'attends. Oh. Ils nous surprennent à chaque fois.
On sent la patte d'Activision chez Blizzard qui vraiment influe vers un mouvement d'argent, un flot d'argent.
Et puis, ils apprennent de leurs erreurs, c'est ça que j'aime bien chez eux.
Oui. C'est vrai que
Diablo 4 sur la semaine prochaine peut-être, non, c'est ça?
Non, pas du tout. Alors, c'est vrai que la dernière tentative de Blizzard de refaire un jeu vidéo, c'était Warcraft 3 Reforged. Alors, ils auraient dû appeler ça Warcraft 3 Refund. Et, comme tu dis, ils ont décidé de remettre un peu ça au goût du jour avec, attention, la grosse annonce hein, qui était faite. Et on en avait parlé dans l'émission, puisqu'ils s'étaient alliés avec un autre studio pour travailler sur Diablo 2.
Ça fait rêver. C'est pas le 4, alors c'est le 2.
Et non, puisque le 2 sortira avant le 4. Et ici, on vous propose, attention, c'est innovant ce que je vais annoncer, hein, de rejouer avec les mêmes impressions qu'avant, mais avec des graphismes améliorés.
Avouez que ça me trouve le cul, j'arrive pas à trouver mes mots.
C'est une version HD en fait, non, c'est ça.
Ils auraient pu faire l'inverse, le faire en mode pixelisé, donc des graphismes plus pourris encore. Parce que c'est à la mode, hein, les jeux en pixel art et compagnie, en mode très léger.
Alors, il n'y a pas d'annonce à StarCraft, parce qu'ils ont déjà épuisé le filon d'un StarCraft Reforge, puisque les rééditions ont déjà été faites sur ce jeu. Warcraft 3, c'est déjà fait. World of Warcraft, ça a déjà été fait avec le mode classique.
Oui, mais attention, ils ont annoncé que, puisque comme ils avaient proposé, le mode classique, donc on rejoue à l'ancienne version de World of Warcraft, et on va remettre les extensions petit à petit, comme ça a été fait à l'origine. Quoi. Donc là, ils annoncent World of Warcraft Burning Crusade classique, donc la nouvelle extension. Mais tu pourras choisir, soit tu passes tes personnages en mode Burning Crusade, soit tu les laisses en mode World of Warcraft classique.
Donc, une fois qu'ils auront fait toutes les extensions, ils pourront refaire dans 10 ans un mode classique à nouveau.
Un classique classique, peut-être.
Ça pourrait faire un beau sujet de philosophie, justement. Là, on parlait de philosophie avec D&D, là. Ça pourrait être un beau sujet.
Après, c'est là où tu vois que tu as des grosses sociétés, grosses industries qui fonctionnent qu'avec des clients vachalés, bah, comme Blizzard maintenant, et des, on va dire, des vrais gamers. Ne serait-ce que l'année dernière, tu avais le jeu Street of Rage 4, et il y a eu tout un packaging sur le jeu, tu as eu des nouvelles mécaniques de jeu implantées, des personnages, que tu avais tout ce qu'il fallait, tu avais un vrai nouveau jeu, et après tu pouvais le remettre en version le 16 bits ou 8, en fonction sur la console que tu jouais sur les premiers postés sur la Mega Drive, tu jouais dessus, tu voyais qu'il y avait un vrai travail dessus. Là, ne serait-ce qu'en regardant que le planning, enfin le programme des deux jours de la BlizzCon, je dis, mais en fait, il n'y a rien. C'est juste du Diablo, Overwatch.
Attention, il y a quand même des grosses actualités telles que Diablo 4, qui avait déjà été annoncé lors de la dernière BlizzCon.
Ils en ont profité pour montrer une nouvelle classe.
Ah voilà, un nouveau perso. Puisque c'est vrai que beaucoup de personnes se plaignaient d'un manque au niveau des combats, pas assez de punch. Hein, ça manquait un peu de vitesse et d'agressivité. Et c'est pour ça qu'ils rajoutent. La nouvelle classe, c'est Rogue, je pense. Hein.
C'est le Rogue de Diablo 2.
Qui lance des flèches partout et qui saute de
qui
droite à gauche.
Pièges, voilà.
Si ça, c'est pas du combat Fast and Furious, Blizzard ne sait pas ce qu'il faut faire.
Il va y avoir des montures. Ils ont parlé du PVP. Voilà, voilà.
Après, en termes de com, je pense que c'est important de tout le temps continuer à alimenter le futur, le potentiel joueur au long de l'année, avec des petites infos, plutôt que de faire... la com tous les 2-3 ans seulement, du coup là vous perdez des clients en fait, des joueurs et des clients. C'est un peu du matraquage, mais bon, ça marche.
C'est peut-être qu'on peut leur reprocher.
Je comprends que pour nous qui sommes des vieux de la vieille, on a plusieurs décennies de jeux et plusieurs décennies
on
sur ces jeux-là.
On découvre l'actualité une fois par mois en lisant Joystick ou des magazines.
Ouais, voilà, et ça, on a l'impression d'être ressasser les informations et on commence à avoir une overdose. Mais effectivement, tu as des jeunes joueurs qui ont la quinzaine, qui découvrent ces jeux, qui n'ont jamais fait les anciens opus. pourquoi pas, quoi. T'as aussi le format d'information, le format de véhicule à l'information qui est peut-être adapté à eux, mais pour nous, c'est tellement dilué, c'est le drone, c'est « Oh, on a fait une nouvelle classe, waouh, il va telle nouvelle skin, waouh ». Non, c'est quoi la mécanique du jeu? Qu'est-ce que ça va apporter? T'as une différence de génération entre la société Blizzard et les joueurs de maintenant comme nous.
Les joueurs de maintenant, les anciens joueurs qui continuent de jouer, tu veux dire?
Ouais, pour nous, c'est plus des nouveautés. Autant les nouveaux joueurs, eux, vont peut-être pas faire les anciens opus, ça les intéresse peut-être pas. Ou alors, ils vont peut-être se faire avoir par les trucs qui brillent, style Diablo 2 Resurrect, mais sans plus, quoi.
Alors attention, il y a quand même des actualités, puisque Overwatch 2 va être décalé à l'année prochaine, sûrement. Et on s'aperçoit, en écoutant les développeurs, la dernière BlizzCon, ça n'a pas forcément plu à tout le monde, ces annonces d'Overwatch 2, puisque ça ressemblait beaucoup à la mouture actuelle de Overwatch 1, qui est majoritairement basée multiplayer. Et ici, le 2 promet une aventure un peu plus solo, où vous allez pouvoir même évoluer vos personnages, ce qui était complètement absent de ce Overwatch 1. Le tout dans les mêmes graphismes et avec le même moteur de jeu. Et les gens se sont sentis un peu biaisés à ce niveau-là et se sont dit « Mais oui, mais à quoi ça sert de racheter un jeu si c'est pour avoir un peu la même expérience ?» Donc, la solution de Blizzard, ça a été de créer des nouveaux monstres et de les rendre un peu plus intéressants. Voilà, c'est ce qu'on a pu découvrir en écoutant ces commentaires de la BlizzCon. C'est un peu navrant. Au début, je vais être honnête avec vous, j'étais un peu énervé lorsque je voyais ces annonces. Et en écoutant un peu la BlizzCon, j'ai commencé à avoir pitié un peu pour ces développeurs.
C'est dans une boîte comme Blizzard qui a été rachetée par des boîtes et des boîtes. Maintenant, le budget développement, c'est réquis par rapport au budget marketing et communication.
Après, le développeur, lui, il fait ce qu'on lui demande de faire. C'est l'orientation de la boîte elle-même qu'il faut peut-être revoir pour améliorer quelque chose.
Après, n'oublions pas que quand Blizzard sort un jeu, même si c'est une version proto, il est déjà mieux terminé, il y a déjà moins de bugs que certains jeux qui sortent. Bon, on va pas parler de Cyberpunk, mais bref. Donc c'est vrai que ça leur prend beaucoup de temps, et d'où peut-être un peu le sentiment de frustration de se dire finalement, ils ont eu plusieurs années et il y a peu d'évolution. Bon, il faut trouver le juste équilibre.
Il faut faire quelque chose juste pour redonner envie de jouer, comme on disait tout à l'heure, redécouvrir de nouvelles expériences, forcément avec un acquis des anciens. Il y a un petit truc qui manque là en ce moment.
Et ce qui nous manque actuellement dans l'émission, c'est un peu de musique. Le back-to-back, c'est les groupes qui se sont séparés. Reynald, je te propose de nous proposer ton choix afin qu'il ne soit pas coupé en fin d'émission.
Ah, c'est très gentil de ta part. En fait, moi, j'ai choisi un groupe, je suis assez métalleux de base. Il y a eu quelques années, il y avait le groupe Aerosmith, qui est un groupe de hard rock, mais plus un groupe de rock américain. Qui date des années 70, et il y a en 2016, annonce leur séparation. Donc ça fait quand même déjà un groupe qui a fait 40 ans de carrière, voire 50 ans de carrière, pas tergiverser là-dessus. Et je vous propose un de leurs tubes, qui est dans l'album Pump, de 1989, et le morceau s'appelle Love in an Elevator.
Yeah. C'était Love in an Elevator avec Aerosmith.
Juste la chanson anale, il y a un lien avec l'actualité ou pas du tout?
Non.
Si, c'est son actualité personnelle, mais on va pas en parler.
Voilà.
Merci.
La madame
Merci.
M'a dit de pas en parler.
Alors, Dominique, tu suis en direct l'Asdor. Et ça y est.
Ah oui, mais je suis en même temps la vidéo sur la page Facebook du Festival des Jeux de Cannes. Et ils ont présenté tous les jeux et on a vu les auteurs et les animateurs qui étaient là, qui se présentaient, qui remerciaient tout le monde. Et les gagnants, c'est donc Dragomino, dont on avait parlé dans la dernière émission.
Alors, c'est pas forcément l'un de nos favoris, tiens.
Effectivement.
Personnellement, moi, je misais sur Kraken Attack.
Pareil.
Oui, parce que c'est une adaptation. Dragomino, c'est l'adaptation de King Domino. Donc, je me dis, au niveau originalité, faut voir. Mais bon, après, c'est Bruno Catala, donc les mécaniques tournent bien. Les graphismes étaient parfaits aussi. Donc, je pense que c'est celui qui a plus plu au jury, tout simplement.
En tout cas, bravo à lui. C'est toujours une joie, je pense, de recevoir des prix, même s'il en a déjà reçu beaucoup. Mais bon, en tout cas, c'est aussi une récompense et une reconnaissance de son travail.
On fait peut-être un peu nos bougons de connaisseurs de jeux, mais c'est vrai que ça reste un très bon jeu pour enfants. Il y a plein de petites subtilités que pour nous, c'est lambda, mais pour un enfant, ça va faire découvrir pas mal de choses sur le domaine du jeu et sur son développement. Donc, c'est un très bon jeu et c'est aussi un peu normal qu'il ait gagné.
Allez, on revient avec Blizzard, puisqu'il nous propose de grandes nouveautés et notamment en partant dans le domaine de l'arcade. Et de proposer sur PC et sur console des titres innovants tels que The Lost Viking, Black Throne et Rock'n'Roll Racing, tous leurs jeux arcade de l'époque, hein, qu'on a pu jouer peut-être sur Amiga par exemple. Voilà, ça sent bon la nouveauté encore une fois.
Ouais, en même temps, je me dis, tant qu'à refaire des jeux, bon, enfin, c'est vrai que là, ils prennent pas de grands risques en ressortant des jeux qui ont bien marché. Mais après, bah, c'était un peu l'échange qu'on avait tout à l'heure en disant les anciens certes on connaît, les jeunes qui n'ont pas eu l'occasion d'y jouer, je pense que ça peut être une très bonne surprise pour eux de se replonger dans des jeux comme ça.
Ça va, ils vont tenir 20 secondes.
Oh, Lost Vikings, je sais pas.
Non mais si...
J'ai retesté, oui, je les avais testés, ces petits jeux, etc. Mais non, c'est le gameplay, dépassé, c'est lent.
Ah, il faut les remettre au goût du jour, bien sûr. Mais bon.
Ouais, genre sur mobile, éventuellement, mais...
Ouais,
ici, on
ne
parle pas du tout de remise au goût du jour. On ressort, on les met disponibles sur arcade avec une version PC. Mais qu'est-ce qui empêchait les gens de faire déjà une émulation de ces jeux-là? Et si les gens étaient vraiment intéressés, ils l'ont déjà fait et puis ils sont passés à autre chose, je pense.
Avec le temps, il n'est pas passé en abandonware pour certains titres, non?
C'est possible.
Oui, mais si on peut se faire un peu d'argent dessus, enfin, et le vendre sur Nintendo Switch. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Un nouveau patch pour World of Warcraft, bien sûr, mais bon, on s'en moque un peu.
Hearthstone, j'ai pas entendu.
Alors, Dominique, tu nous as...
Une nouvelle extension pour Hearthstone, déjà, avec un nouveau mode de jeu qui s'appelle Hearthstone Mercenaries. Je sais pas ce que ça peut donner. Je pense que Hearthstone, c'est là où Blizzard a le plus innové. Ils ont plus innové dans Hearthstone qu'en trouvant des nouvelles mécaniques de jeu que dans tous leurs jeux réunis.
Alors, Dom, quand tu nous parlais d'Hearthstone classique, c'était de la fake news ou...
Pas vraiment. En fait, oui, c'est ça. Le mode Hearthstone Mercenaries, apparemment, c'est ce qu'on pourrait appeler Hearthstone classique. Avec des anciennes cartes. Les cartes qui ont été bannies, etc. Donc, tu pourras jouer un petit peu comme au début. Mais je ne vais pas me laisser tenter cette fois. Ah, c'est un super jeu, attention. Mais je ne vais pas le réinstaller.
Ah, est-ce qu'il serait capable de faire payer un jeu gratuit cette fois-ci?
Non, il ne faut pas pousser non plus.
Tu crois?
Non, par payer des packs de cartes, quoi, mais c'est comme ça qui fonctionne. Mais il a été gratuit, non, je n'ai pas question qu'il le fasse payer.
Déjà que sur World of Warcraft, apparemment, tu dois payer pour migrer ton perso d'un serveur ou un autre.
Oh, ça, c'est des services en jeu. C'est classique, c'est normal.
Petit aparté. Alors, Dominique, tu dois voir l'événement, mais du coup, à votre avis, qui a gagné l'As d'or expert?
Mais ils ne l'ont pas encore annoncé.
C'est en cours, là. On va le faire vraiment en direct. Le gagnant est... Ah, tiens, quelle surprise!
Mais si, c'est le coup, c'est ça. Bah oui, bah c'est l'événement direct, voilà.
Alors tu veux dire que toi, ta connexion internet, elle va plus vite que la nôtre?
Mais tout à fait.
Bah, moi je suis sur TrickTrack TV et ça fait au moins une minute que je sais que c'est le coup.
Mais non, mais Pierre-Yves, il bénéficie du nouveau câble qui a été tendu par Google entre les États-Unis et l'Europe. Comme l'arrivée en Europe est à peu près, j'ai regardé, à 75 km de chez lui, il est peut-être branché directement dessus.
Direct depuis Cannes et des États-Unis.
Ah oui,
géographiquement, tu es plus près de Cannes aussi, c'est peut-être pour ça.
C'est pas faux.
Donc, on rappelle The Crew, doublé, le Spiel et l'As d'or.
Ouais.
Jusqu'ici, enfin oui, The Crew, c'est tout à fait un jeu qui avait besoin de faire encore plus de ventes.
Bah après, là, tu sais que ça a été reconnu pour son côté ludique et son côté où tu peux regrouper des gens.
Cette mécanique super innovante dans la simplicité, j'avoue.
C'est pas un des nouveaux jeux de pli où tu découvres des trucs. Enfin, le système du jeu est hyper connu. Il y a d'autres jeux qui le font. Il est arrivé au bon moment. Ça a été bien construit. Les bonnes mécaniques avec.
Plutôt, c'est pas nickel. Ouais. Voilà. Puis parmi les quatre jeux experts, effectivement, c'est celui-là, il coûte 20 euros. Peut-être à 20 euros. Les autres sont au minimum à 75 euros. Donc, c'est un jeu qui, de toute façon, va finir qui prend moins de place sur la table, qui va sortir plus souvent et qui va prendre encore plus de place dans les familles.
Après, je pense que l'Asdor, l'une des volontés, c'est aussi de démocratiser le jeu. Mm-hmm. Et je pense qu'effectivement, avec un jeu comme The Crew, c'est un bon moyen d'y arriver, parce que d'autres jeux comme Le Dilemme du Roi ou bien Tainted Grail, c'est vraiment... Enfin, là, il y a un gros niveau d'investissement. Alors, pas que financier, hein, bien sûr, mais aussi en termes d'heures à y passer. Alors, Paléo aurait très bien pu faire un très bon jeu aussi Asdor, hein, pour du coup des joueurs qui débutent, on va dire. Mais du coup, effectivement, The Crew, très bon choix. J'approuve.
Ouais, puis c'est celui qu'on avait plus ou moins sélectionné en tant que joueur dans l'émission. Puis on l'a retourné hein, pour...
Aussi.
Alors, je voulais parler un peu de musique. Puisque dans cet événement passionnant de la BlizzCon, ils ont quand même essayé de mettre un peu d'action, un peu de musique. Et qui d'autre ?
On parle pas de Metallica alors ?
Mais si, justement.
Tu parlais de musique, je voyais pas le rapport.
Ça y est, ça troll. Effectivement, Metallica a été invité. Ils avaient déjà été invités lors d'une BlizzCon précédente, de 2014, je pense. Et ils ont pu faire cette fois-ci en ligne un événement, alors qu'ils ont enregistré dans leur studio et qu'ils ont diffusé comme ça en live. Et on pouvait suivre cet événement notamment sur Twitch. Et lors de la diffusion de la musique et du live de Metallica, il s'est passé ce qui devait se passer. Twitch a coupé l'événement pour remplacer la partie sonore par autre chose, une musique libre de droit.
Et quelle musique as-tu préférée, François ? C'est ça la vraie question.
Bah, les deux étaient bien. Moi, j'aimais bien l'enchaînement des deux, justement.
Parce que concrètement, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, Metallica a commencé à jouer en live, hein, si je ne dis pas de bêtises. La musique, ouais, le son a baissé, on est passé sur une autre musique. Mais c'est tout simplement parce que l'algorithme de Twitch, qui surveille toutes les vidéos qui sont et les diffusions, arrive à repérer les morceaux qui ne sont pas libres de droit, où il n'y a pas eu de déclaration claire. Et soit sur YouTube, je crois que tu as carrément un vide, enfin, t'as plus le son du tout, tout le son est coupé. Et là, ils ont remplacé la musique par une musique libre de droit, c'est plus original.
Alors, du coup, je vous propose d'écouter Metallica avec From Whom the Bell Tolls. Voir une musique de Metallica complètement inhabituelle, un peu plus relax, un peu plus mode poré de Zelda, tiens, on a l'impression.
C'est pas l'algorithme de Radio Campus qui a censuré, non ?
Peut-être, ah bah si on avait ça, je peux te dire qu'il tournerait fort. Hein. Il s'ennuierait pas l'algorithme.
Là où c'est paradoxal, c'est que tout le monde s'est un petit peu moqué de ça, parce qu'on se rappelle qu'il y a quelques années, Metallica avait... ça remonte à l'époque de Napster. Au début du piratage du MP3, ils étaient montés au créneau en défendant les artistes, les créateurs en défendant leur porte-monnaie, quoi, en luttant contre le piratage. Et déjà à l'époque, tout le monde s'était un peu moqué d'eux parce qu'ils étaient dépassés, et puis là, bon, ben, ça leur retombe dessus. Puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Twitch a porté plainte, a arrêté la musique, soi-disant, parce qu'ils craignaient que le propriétaire de la musique, c'est-à-dire Metallica, porte plainte contre Metallica pour jouer sa propre musique. Mais on avait eu le cas il n'y a pas longtemps avec un musicien qui avait joué ses propres compositions en live et qui avait été coupé.
Et le coupé et banni. Tu retrouves principalement sur Guitar Hero parce que c'est des musiques avec énormément de techniques, que ce soit en guitare ou en batterie. Donc tu les trouves généralement en fin de session de Guitar Hero, assez difficile. Mais si je ne me trompe pas, c'est Dragon Force, c'est un des deux guitaristes de Dragon Force. Et, il jouait sur sa chaîne privée Twitch. La maison d'édition de ses disques a entendu le morceau passer sur les ondes, sur une chaîne Twitch qui n'a pas été acceptée par eux. Il dit, bah hop, ça fraude, on vire.
Pas banal, hein. Je vous propose d'écouter une autre chanson, cette fois-ci liée à notre back-to-back, ces groupes qui se sont séparés. Je vais vous proposer mon choix, un groupe qui s'appelle Faith No More.
Que ça vous dit quelque chose ? Ils s'appellent plus puisqu'ils sont séparés.
C'est ça, Faith No More is No More.
On aurait dû dire un groupe qui s'appelait Faith No More.
Alors ce groupe de funk metal américain qui nous vient de Californie, alors un groupe qui a commencé plus ou moins dans les années 80 et qui a terminé avec une séparation assez violente en 1998. Et comme certains groupes, il a eu droit à une petite reformation de quelques années, histoire de payer ses impôts, comme on aime bien le dire. On va s'écouter Faith No More avec la chanson qui s'appelle Epic.
It's out of sight. You can touch it, smell it, tastes so sweet, but it
C'était Epic avec Faith No More. On continue, alors on va quitter la BlizzCon cette fois-ci. On reviendra bien sûr.
Non, on en est à la présentation des jeux de la troisième catégorie, c'est-à-dire famille, si je ne dis pas de bêtises.
Tout à fait. Ah, mais je vois que ta connexion Internet est la même que la mienne, finalement, Dominique.
Moi, je vote pour Top 10. Je pense que c'est celui qui devrait gagner.
Alors attention, puisqu'en direct, on va savoir le vainqueur. Enfin, en direct différé pour vous.
Ah non!
Ce n'est pas Top 10, messieurs, dames, ce n'est pas Top 10.
Mais c'est un jeu très très sympa aussi, c'est Micro Macro Crime City, avec un nom bizarre. Mais...
Tout à fait.
Alors, le Où est Charlie Style, hein? Cette grande carte dessinée en noir et blanc où vous allez devoir suivre des enquêtes. Alors, il y avait même une version disponible en ligne hein, qu'on
c'est
a testée.
On peut y jouer en ligne sur le site micromacrocrimecity.com, quelque chose comme ça. Vraiment un jeu très, très sympa. Qui est déjà disponible, lui.
Sur portable et tablette, vous avez un peu un jeu dans le même genre, en noir et blanc avec des dessins aussi. Vous devez trouver des personnages, des objets autres. C'est Hidden Folks, donc avec plusieurs cartes, en fait, plusieurs cartes, plusieurs dessins. Donc, il est aussi très, très bien.
Allez, des petites actualités en vrac cette fois-ci. On va partir au Palais de Tokyo qui organise des événements et il fait appel à une collaboration avec... Tout le monde, en fait. C'est un projet collaboratif et solidaire.
On peut pas aller le visiter. Palais Tokyo qui est à Paris, hein, au cas où les gens auraient un doute, on sait jamais. Et en fait, ils ont une idée originale parce que l'origami, c'est très développé au Japon. Et en fait, ils ont demandé à tous les visiteurs, à n'importe qui, on peut le faire, hein, d'envoyer des oiseaux en origami, donc en papier. Donc, tu peux prendre n'importe quel papier pour le faire, du papier journal, du papier à lettres, une vieille carte postale, un papier d'emballage, un paquet cadeau, absolument ce que tu veux. Et tu le plies. Il y a le plan sur le site du Palais Tokyo, donc palaistokyo.com, le tuto pour faire tes origamis, ton petit doigt, et tu l'envoies au Palais Tokyo. Je crois qu'il y a une dame qui est venue déposer 300 origamis. Et avec tous ces origamis, ils vont faire une œuvre d'art. On peut déjà voir la photo sur le site du Palais Tokyo. C'est une espèce d'arbre qui est composé avec des tas d'oiseaux en origami. Et pour chaque origami qui est déposé, il y a 1 € qui est donné à une œuvre au SAMU Social de Paris. Donc ça s'appelle Origami for Life. Donc il y a l'adresse du palais sur le site. Donc si vous retrouvez des papiers, au lieu de les jeter à la poubelle ou dans la poubelle à recyclage, vous amusez avec les enfants et tout, c'est parfait. Faire plein de petits oiseaux pour une bonne œuvre. C'est original, je trouve.
C'est la fondation Engie qui va verser ces 1 €.
Oui, c'est pas avec nos impôts.
Je vérifie, hein, on sait jamais. Alors bien sûr, hein, l'origami, ne l'envoyez pas dans une lettre. Hein, du coup.
Ah oui, est-ce que tu plies la lettre du coup? Je sais pas.
Autre petite participation que vous pouvez effectuer, c'est un grand concours, cette fois-ci. C'est un événement pour mettre en valeur la co-création. Donc pour tous ceux qui ont toujours voulu créer un peu leur jeu de société.
À force d'entendre des gens qui gagnent des prix, etc., ils se sont dit, moi aussi, j'ai peut-être une idée de jeu de société. Et donc, c'est la société Widyka, W-I-D-Y-K-A, qui a lancé un concours de co-création, c'est genre bien comme ça. Vous envoyez vous allez sur le site de la société, donc widyka.com, et dans la partie concours, vous pouvez télécharger un formulaire pour participer. Vous décrivez votre jeu, vous l'envoyez. C'est jusqu'au 10 avril 2021. Et il y a un jury qui va sélectionner les meilleures idées de jeu et qui vont, avec les gagnants, décider, enfin les élaborer pour éventuellement les sortir plus tard.
Alors attention, quand on parle de co-création, généralement, c'est deux ou plusieurs auteurs ou créateurs qui se mettent ensemble pour élaborer un prototype qu'on soumet après à un concours, peut-être comme celui-ci. Là, on entend co-création en concours, c'est que... une personne, un groupe de personnes, va présenter un de ces jeux que la société va après co-éditer. Donc, elle se met en tant qu'auteur au même niveau que la personne qui leur a présenté le jeu.
C'est-à-dire que toi, tu crées, eux, ils encaissent l'argent. Bon, on exagère un peu. Le monde de l'édition, c'est ça, un peu ça. Mais toi, parce que même si tu n'es pas édité, il y a quand même y a 1 000 € pour le premier et 1 000 € en chaque cadeau. Donc voilà, si vous avez à force de nous entendre parler de jeux et de création de jeux, votre idée de jeu, c'est un des moyens de... vu qu'il n'y a pas de salon en plus en ce moment pour présenter ses jeux, ses protos, c'est un des moyens de faire parler de son jeu ou de son idée.
C'est ça, widyka.com. Dominique, est-ce que tu veux nous proposer un peu de musique dans cette émission? Oui. Quel groupe, toi, t'as marqué qui s'est séparé?
La séparation m'a marqué. Ah oui, quand j'ai entendu ça, c'était en 2017 qu'ils se sont séparés. Et quand j'ai entendu que les frérots de la Vega se sont séparés, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Encore un groupe avec des frères, etc. Et en fait, je me suis aperçu, vu que j'avais entendu le nom, je crois qu'il avait participé à la Starac. Hein. Et j'ai enfin découvert... Ouais, peut-être. Oui, c'est ça. J'avais enfin découvert le secret. C'est qu'en fait, ils s'appellent Frérot de la Vega. Comme tout le monde, tu dis, c'est des frères qui s'appellent de la Vega. Mais pas du tout. C'est à ce moment-là, quand ils se sont parés, que tout le monde a découvert avec stupeur qu'en fait, il y en a un qui s'appelle Frérot et que l'autre s'appelle de la Vega et que c'était un pur hasard. C'est comme si les Rolling Stones, par exemple, t'as un gars qui s'appelle Rolling, un autre Stones, tu vois. C'était le coup de chance. Ah, ou The Police, qu'on parlait tout à l'heure. Il y en a un qui s'appelle The et l'autre s'appelle Police, mais bon, ça marche pas. Et ben, effectivement, là, tout le monde était surpris. Et y a surtout l'un des deux, je crois, qui a été surpris. Je crois que c'est Florian de la Vega. Parce que lui il aurait bien voulu continuer. Mais c'est son comparse, Frérot. Lui, par contre, il en avait marre de la célébrité. Il avait envie de passer à autre chose. Je sens les phrases que tous les artistes sortent quand ils se séparent ou quand ils arrivent en fin de carrière. Des envies différentes. Envie de passer à autre chose. Sauf que l'autre, il avait pas envie, donc il était un petit peu au bord du suicide. Il aurait bien continué à toucher des royalties. Du coup, il a essayé de continuer en solo, mais ça n'a pas marché.
Ils avaient peut-être déjà fait l'album de la maturité, donc après, il n'y avait plus rien.
Ils ont arrêté avant de faire l'album de trop.
Tu regardes The Police, ils sont pas assez longtemps ensemble, en fait. Hein. Ils ont fait quoi, 7-8 ans? Bon, après, il y en a qu'un qui a continué sa carrière, qui a réussi, d'accord, mais bon.
Bon, là, il y en a un aussi qui a continué sa carrière. Apparemment, ça marche pas si bien que ça.
C'est bizarre, quand tu fais The Voice, tu ne perces pas après dans l'industrie. C'est bizarre, ça. On va s'écouter le chant des sirènes, Dominique.
C'est parti.
Enfant des parcs, gamin des plages, le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts. Le temps n'épargne personne, hélas. Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du Pila. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Combien de farces, combien de frasques, combien de traces, combien de masques avons-nous laissé là-bas? Poser les armes, prendre le large, trouver le calme dans ce vacarme avant que je ne m'y noie. Oh, des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire.
Voilà, c'était Frérot de la Vega. Encore une belle musique sur Radio Campus. Une petite dernière news avant de se quitter.
On va juste rappeler le palmarès, enfin les gagnants, hein, faire un petit récap des gagnants du festival. Donc, dans de l'As d'Or Jeu de l'année 2021, donc dans la catégorie enfant, c'est Dracomino, un jeu de Bruno Takatala qui est distribué par BlackRock. La catégorie expert, c'est The Crew, un jeu de Thomas Singh qui est distribué par Yellow. Et dans la catégorie famille, on va dire classique, c'est Micro Macro Crime City, un jeu de Johannes Schick qui est développé, qui est distribué par BlackRock Games. Et c'est dommage parce qu'il y avait deux jeux Gigamic, donc une société du Nord, mais ils n'ont rien gagné. Et comme quoi, c'est comme dans les vraies remises, c'est pas parce que tu as plusieurs nominations que des fois, bah, tu peux repartir sans rien du tout.
Après, ici, une nomination, ça résonne quand même mieux.
Oui, ça fait parler.
Pour tes ventes, c'est sympa. Alors, on va se quitter en musique et avec une actualité. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas les Daft Punk, c'est plutôt une chanson qui a traversé
l'espace.
Ouais, l'espace et le temps.
Parce que figurez-vous qu'il y a 10 ans, mais je ne savais pas que ça faisait 10 ans, il y a un chat coloré, je ne sais pas comment on appelle ça, qu'on appelait le Nangan, qui a fait son apparition sur YouTube. C'est un type qui s'appelle Chris Torres qui avait créé ça. Un petit chat avec qui sème des arcs-en-ciel derrière lui, qui se pointe dans l'espace, avec une petite boucle de musique répétitive, très répétitive, très très répétitive et entêtante. Tous ceux qui vont l'écouter vont l'avoir en tête. Et pour les 10 ans de son apparition, donc, il a décidé de remasteriser son œuvre et de la mettre en vente aux enchères. Et en 24 heures, elle a atteint 361 000 euros pour acheter un GIF animé quand même. Et là, tout de suite, il y a plein de gens qui vont jeter sur leur logiciel pour essayer de faire le futur GIF animé qui va marcher.
Il a même demandé un paiement en crypto-monnaie, justement, d'être original.
Quoi, c'est un mec qui en avance sur son temps, peut-être.
C'est ça, il était porté par son chat et son arc-en-ciel, sûrement vers des idées innovantes. Il devrait peut-être travailler chez Blizzard, hein, pour.
S'il avait déposé, ne serait-ce que, genre, quand tu réutilises son GIF animé ou que tu le modifies, tu touches un centime, il aurait gagné beaucoup plus d'argent parce que le truc était aimé. Il y a des centaines de millions de versions de fois où il a été diffusé, ce truc-là.
Après, je pense qu'il devrait le combiner avec un vaisseau spatial de Star Citizen. Et là, je pense qu'il pourrait être vendu un million d'euros au moins. On préfère une émission, je pense.
Ne lance pas des sujets comme Star Citizen comme ça sur la table qui pourrait durer une heure.
Non. Je pense facilement.
Écoute, je mettrai au sommaire d'une prochaine émission le jour où il va sortir. Voilà. Donc en 2045, on en reparlera.
C'est le jour où il sortira en version finale plutôt. Parce que tu peux y jouer, hein, Star Citizen.
Bon, son créateur sera mort. Sera mort, il verra même pas son jeu fini.
C'est clair.
Voilà, on se quitte avec encore une magnifique musique. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Heureusement en France. Et d'ici là, portez-vous bien, ciao.
À plus.
Salut à tous.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.